France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec de nouveaux invités.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne, France Musique.
C'est par une séquence hommage que nous ouvrons cette émission.
Oui Bruno, je vous propose d'écouter une madeleine sonore en hommage au musicien finlandais Mika Vainio, tragiquement disparu il y a quelques jours à l'âge de 53 ans. Mika Vainio était expérimentateur électronique, moitié du fameux duo Panasonic qui avait été actif de 1993 à 2009. Influencé par la musique industrielle et la techno naissante, Vainio a tracé une voie unique en créant un univers sonore original où les matériaux de base, sinusoïdes, parasites, bourdonnements à 50 Hz, s'agrègent et se diffractent en une musique électronique d'une grande subtilité, capable parfois de déflagrations tonitruantes et offrant toujours à l'écoute un impact émotionnel désarmant. Une musique d'une extrême sensibilité donc, qui résonne parfaitement avec son créateur à fleur de peau et qui malheureusement a été emportée bien trop tôt, laissant un vide immense parmi ses amis et parmi tous les amateurs de ces musiques électroniques qu'il avait contribué à façonner. Nous écoutons un extrait de l'album Cajo, paru en 2000 chez Touch Record, Mika Vainio. Nous venons d'écouter Third Aria, issu de l'album Cajot, et que l'on doit au regretté Mika Vainio.
Nouvelle escale au Québec ce soir avec Tim Brady et René Lucier, deux guitaristes-compositeurs au parcours à la fois proche et distant. Du haut de ses 60 ans qu'il a fêté il y a quelques jours, René Lucier peut se retourner sur un parcours riche en multiplicité d'expériences musicales originales. Guitariste autodidacte, compositeur prolifique et éclectique, René Lucier n'a cessé depuis la fin des années 70 d'initier de nouveaux chantiers en s'alliant à des musiciens venus de tous horizons. On le retrouve notamment dans le quatuor de guitare de Fred Frith, dans les quatre guitaristes de l'Apocalypse au bar, dans un duo improbable avec le clarinettiste Robert Marcel Lepage sous le nom de Chants et Danses du monde inanimé, et également en rencontre avec le platiniste Martin Tétrault. Amoureux des mots et des sonorités, il a cultivé un paysage singulier qui a l'unicité de son parcours. Il est l'invité de ce tapage nocturne.
Pour vous, est-ce que c'est important de parler français ?
Ah bah absolument, je suis française. À vrai dire, bon, bah, moi, je connais pas le dialecte québécois, donc je les comprends difficilement. Et j'aimerais bien qu'on s'adresse à moi en français.
Parce que c'est le Québec.
Ben oui, c'est important. C'est un pays canadien-français.
Oui, absolument avec le Canada. C'est avec le Canada, ils vont. Yeah. Voilà pour le Canada. Le pays, c'est bon.
C'est important. Ah, oui. Le Québec, c'est important que ce soit français.
Très important. Très important. Super important.
C'est très important.
Oui,
parce que c'est notre culture, on est minoritaire et il faut absolument conserver ça.
C'est sûr que c'est important parce que c'est le Québec nous appartient quand même. Là. Hein, si on y rentre en Ontario, là, Ontario, il nous appartient aux autres. Et puis nous autres, au Québec, on est bien. Puis quoi, c'est à nous autres, ça. C'est, on l'a bâti, notre Québec, tu sais, quand même.
Pour moi, c'est pas un problème, mais s'ils veulent nous obliger à parler l'anglais, ça sera un problème.
Mais oui, c'est français.
Oui, c'est important, évidemment. Si on y tient, tout le monde y tient plus souvent. Enfin, tout le monde y tient, je pense. Qu'est-ce que vous faites? Faites-vous une enquête ou quoi?
Ok, vas-y.
Là, on est dans un char rouge. Il est lundi 26, 1h17. Puis c'est un char qui n'a pas de pollution pantoute. L'exhaust, c'est par en dedans.
René Lucier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, au milieu des années 70, vous participez à l'aventure Coventum. Quelle était la philosophie de ce lieu et de ce collectif?
Ah, ben là, on aurait pris assez longtemps pour que tu manques ton avion. en gros, moi, j'étais très jeune à ce moment-là. J'étais le plus jeune du groupe. C'était de la création collective, c'était des compositions collectives. Il y avait un chef de composition, mais tout le monde inventait sa propre voix à travers la pièce. Donc, il y a quelqu'un qui arrivait avec une idée, et chacun... On lisait pas la musique, donc on était comme... Mais on écoutait la musique, savante. Et puis,
c'était quoi la musique savante pour toi à l'époque?
Ben, moi, j'écoutais les quatuors de Bartok, j'écoutais toutes sortes de musiques, mais nous autres, on n'avait pas de chapelle tellement. On écoutait autant Nino Rota que Boris Vian, que King Crimson, que Miles Davis, que Bartok. Bon, on était plutôt ouvert à Soft Machine ou ces groupes comme des groupes britanniques là. Puis bon, on composait un genre de folklore imaginaire où chacun trouvait sa propre ligne sur son instrument. Donc des répétitions interminables. Juste pour dire, on s'appelait pour se dire quand on répétera pas. Tu sais, c'est qu'on répétait tout le temps. Tout le temps. Et on jouait de la musique assez complexe, mais tout appris par cœur. Ce groupe de musique-là répétait au centre Le Conventum, qui était un centre culturel tenu avec des brindilles, vraiment pas d'argent. Mais il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait de la musique, il y avait des lectures, il y avait toutes sortes d'affaires. Mais tout ça, là, vraiment, avec plein de dettes.
Et un jour, ça a été rasé pour laisser la place à l'université?
Oui, l'Université de Montréal, on avait perdu le centre à un moment donné. Trop de dettes, ça ne fonctionnait plus. Et puis, on n'était plus du tout encouragé par le gouvernement de l'époque. Ce qui fait que, tranquillement, ça a périclité jusqu'à temps que ça devienne un terrain de stationnement. Et puis, en bout de ligne, c'est devenu... c'est sous l'Université de Montréal, du Québec.
Il reste une pierre?
Il doit bien en rester une, mais pas là. Elle doit être chez nous ou chez quelqu'un.
Il est proche?
C'est ça. C'est où ça? Vous êtes retrouvé ça?
Il faudrait que ça aille par là.
Par là, il peut pas.
Oh, peut-être. Oui. Oui, à la lumière.
Oui, tourner à la lumière. Parce que c'est une rue dans le même sens qu'ici, là. Il allait avoir quoi comme rue?
Saint-François.
Saint-François-Xavier, oui. La Violette. Vous avez rencontré la Violette. Est-ce une même chose?
Elle a le même sens que ça.
Oui.
Mais je pense qu'après ça, il va falloir que vous fassiez un...
Parce que dans le même sens que ça, au moins 400 rues d'ici.
Vous allez voir la cathédrale.
OK.
Elle est au coin de Royal et Bonaventure. Juste de l'autre côté de la rue.
Bon.
Il y avait un grand parc, là.
OK, on va se trouver.
Oui.
Principale, rue principale.
Ouais.
Ça s'appelle demain.
C'est ça. C'est où ça? Vous êtes retrouvé ça?
Il faudrait que ça aille par là.
Par là, il peut pas.
Oh, peut-être. Oui. Oui, à la lumière.
Il n'a pas ça, ça.
Saint-François-Xavier,
ou hein? En tout cas, une rue dans le même sens qu'ici, là.
Ah, tu vois, dans le même sens que ça, au moins 400 rues d'ici.
Ouais.
On peut-tu y aller, là? On a-tu le droit d'y aller?
On va aller à Québec, là, t'as le droit de comprendre.
La Violette.
Ouais.
Vous allez rencontrer la
Violette. Vous allez rencontrer la Violette.
Elle, dans le même sens que ça.
La langue est un axe important pour toi, à tel point que tu composes en 1986 une pièce radiophonique, on reviendra sur ce terme, Le Trésor de la Langue, qui à la fois est une sorte de collecte et à la fois une plongée dans les archives. Alors, il y a notamment cette fameuse archive du général de Gaulle, assez célèbre en France, sur Vive le Québec libre. Comment tu as approché cette œuvre?
Moi, au départ, mon plan, c'était de voir ce qu'il y avait comme accent de la langue française parlée au Québec. J'ai rencontré des linguistes, j'ai rencontré du monde comme ça, puis c'était finalement du monde assez plate. C'était pas intéressant, c'est comme si le type me parlait. Puis là, je dis, excusez-moi, mais est-ce que vous parlez comme ça à votre famille, tu sais, parce qu'il me parlait, vous savez, de tu sais. Je disais, est-ce que vous parlez comme ça à votre famille quand vous allez en Abitibi ou... Il dit, non, pas du tout. Je comprenais pas, tu sais, il y avait comme des dédoublements. Tout ça pour dire que j'ai commencé à juste faire de la collecte de façon anarchique. C'est présenté aussi l'aspect que j'avais pas eu vraiment de cours d'histoire contemporaine du Québec. Parce qu'à l'école, on nous parlait pas de ça. Fait que je me suis payé un cours d'histoire. Je me suis dit, bon, de quoi je suis fait? D'où je viens? Comment ça s'est passé? J'étais trop jeune pendant la crise d'octobre. J'avais le goût d'aller sonder toutes ces époques-là. Puis là, ben, j'ai été fouillé dans les archives. Et puis, les archives m'ont appris beaucoup, ce que je voulais savoir à peu près. Puis la collecte que j'avais faite de façon anarchique, c'était plutôt... on était gênés un peu, tu sais, parce qu'on faisait de la prise de son cinéma, mais pas de caméra. Donc, quand t'as pas de caméra, c'est gênant de tenir le micro, tu sais, parce que là, la personne, tu la connais pas. Fait qu'on s'est dit, « Hey, on va juste le demander où c'est qu'on va. » On va leur demander, excusez-moi, pour aller telle place. Puis on cache le microphone. Puis tu sais, c'est comme bon. Puis c'était vraiment juste comme on rentrait dans le projet. Puis là, on s'est rendu compte que les directions, c'était excitant. Tu sais, parce que bon, le centre-ville, c'est où? Puis là, tout d'un coup, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Puis bon, à gauche, à droite. On peut aller dans toutes les directions. Là. Ce qui fait que je pouvais passer d'un bloc d'archives à un autre avec une direction dans la rue, quelqu'un qui me dit, oui, centre-ville, c'est par là. OK, merci beaucoup. Bang, on arrive sur De Gaulle ou on arrive sur peu importe. Là. Ça s'est construit de façon assez anarchique, mais avec beaucoup, beaucoup de soins. Beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de picossage. Puis tout ça, c'était en ruban. C'était pas numérique. Là. Il y a même plusieurs enregistrements que j'ai jamais écoutés. Il y en avait trop. Puis en ruban, c'est lourd. T'sais, c'est comme, bon, OK, est-ce que c'est bien rembobiné? Est-ce qu'il va y avoir du print-through, comme on dit? Est-ce que c'est-tu la tête ou la queue du ruban qui est là? En tout cas, c'était quand même assez lourd. Puis bon, ben, j'ai avancé là-dedans. Puis des amis qui m'ont dit, hey, tu devrais peut-être aborder ça dans tel sens. C'était un peu dans un esprit cinéma direct, documentaire. Film d'auteur. C'était un peu dans ce sens-là que... Puis, bon, le fait d'avoir composé beaucoup pour le documentaire, le film, j'observais comment les cinéastes agissaient entre eux aussi, tu sais. Comme, bon, ils s'invitaient tous au visionnement des rushs, puis tout ça, tu sais. Ce qui fait que, j'avais le goût de faire mon film. Et puis, en bout de ligne, ça a fait un film aussi. Il y a quelqu'un qui a fait un film à partir du disque. En tout cas, ça a fait des spectacles. Ça a découlé dans plein de trucs.
Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. En ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable, la France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en voudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. We'll be right back.
toutes sortes d'occasions. J'ai participé à des festivals de guitare. Pendant longtemps, je me demandais qu'est-ce que je vais jouer. Bon, j'improvisais. Je me disais, bon, imagine-toi qu'au moins le premier 15 minutes, t'es une araignée qui tisse sa toile. Tu commences par là. Avant d'attraper quoi que ce soit, là, commence par mettre la table. Puis après ça, on verra ce qu'on mange. Tu sais, c'est un peu cette idée-là. C'est quand même exigeant. Je me rappelle d'avoir rencontré d'autres improvisateurs que j'admirais. Et puis je disais, ouais, c'est ça, je sais pas trop quoi jouer. Puis il y en a un qui m'a répondu, il dit, regarde, sur quoi tu travailles de ce temps-là? Ben, je dis, je travaille sur ça, ça, ça. Ben, je dis, c'est ça que tu as dans les mains. Alors, c'est ça que tu présentes. Que ça soit de la musique pour orchestre, que tu t'écris puis que tu travailles, tu peux la jouer en solo. Ça va être un autre aspect, ça va être... c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais quand j'ai fait les disques solo, j'ai fait deux disques de guitare solo, un acoustique, un électrique, et puis j'avais un désir, tu sais, un peu l'influence européenne, britannique, où t'enlèves aucune note, tu rajoutes pas d'effet, voilà ce que je suis tel que je suis, tac, tac. Puis ça, c'est quand même intimidant. Tu sais, tu te dis, bon, fou, OK, parfait, on improvise. Est-ce que j'ai le vocabulaire pour pouvoir comme garder quelqu'un captif à l'écoute comme ça? Puis en même temps, tu sais, t'as entendu les Derek Bailey, t'as entendu Fred Frith, Chad Bourne, tu sais, Hans Reichel. Il y en a plein des guitaristes épatants qui ont fait des solos. Ou d'autres, pas nécessairement des guitaristes, des instrumentistes. Puis bon, en tout cas, les deux disques que j'ai faits, j'ai enregistré en multipiste, mais la même source. Donc, j'ai enregistré, comme mettons, avec 8 microphones, une guitare. Et puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais pouvoir mixer, faire le mixage. Puis là, je me suis servi de la structure des improvisations pour structurer le mixage. Comme par exemple, je jouais une matière A, des points, pop, 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 j'avais telle prise de son. Là, je change, parce que souvent, quand tu improvises, tu fais matière A, matière B, matière A, matière B, oups, là, ça commence à se pervertir, matière C, matière B, C, oups, là, ça évolue, mais c'est quand même structuré. Puis je me suis dit... Je me suis dit que je pouvais arriver à structurer les mixages de chaque pièce à partir des 8 sources. Donc, quand il y avait un bout que je trouvais vraiment moche, ben j'avais mis un microphone dans un tiroir. Ce qui fait que quand c'était pourri, je mettais ça dans le tiroir. Puis il n'y avait aucun réverb. Si j'avais besoin de plus d'espace, je prenais le microphone plus loin. Si j'avais besoin de quelque chose de plus rond, je prenais le microphone de derrière, en tout cas, ainsi de suite. Donc, je me suis amusé à faire des projets plus spatialisés.
Yeah.
plaît aussi le travail fait sur des musiques de répertoire. Je pense au travail sur Schubert.
Ça a été de la réalisation. Il y a un chanteur de Québec qui voulait faire le Winter Rice. Puis là, bon, ils ont essayé plein de trucs, rock. C'est un chanteur punk, le gars. Puis il y a une voix des fois un peu nasillarde qui peut nous rappeler des chanteurs comme Plastic Bertrand, tu sais, chanter Schubert, qui est d'habitude un chanteur baryton. Je me suis dit, bon, retournons à la base, écoutons le cycle, le pianiste exceptionnel, Vincent Gagnon, qui est pianiste de jazz, mais qui adore Schubert, qui adore toutes sortes de musiques, là, il n'est pas fermé à rien. Et fait qu'on a commencé à travailler les structures. Revenons toujours à l'origine. Puis, tu sais, essayer de se rapprocher le plus possible du caractère. Puis bon, puis diriger le chanteur. Bon, j'ai joué aussi beaucoup là-dedans. Tu sais, c'est des projets qui sont sur longtemps. Où j'aime bien ça, les projets où on a le temps de creuser un peu. Ils sont pas juste comme, foup, c'est fini. J'aime bien ça, passer 2 ans, 3 ans sur un projet. Ça me gêne pas. De toute façon, il n'y a personne qui attend après moi. Ça fait tout si bien de s'amuser.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler dans cette émission.
Ça me fait plaisir. J'imagine que tu avais d'autres questions, mais là, l'avion va t'attendre. <C'est ça.
L'univers de Tim Brady est fait de compositions pour diverses formations, d'improvisations, d'œuvres électroacoustiques, d'opéras de chambre et de pièces pour la danse contemporaine. Sa musique est une synthèse extrêmement personnelle de musique contemporaine classique, de jazz, de rock et d'électronique. À la fois en soliste et avec son groupe, Brady Works, il a passé les 25 dernières années en tournée à travers le monde. Il a écrit plus de 100 pièces, dont 2 opéras et 5 symphonies, et produit plus de 23 opus discographiques, vaste catalogue que nous parcourons avec le compositeur ce soir. Tim Brady est l'invité de ce tapage nocturne. Tim Brady, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez développé un jeu de guitare particulier qui jette notamment un pont entre les musiques populaires, le jazz et la musique savante. Quand est née cette quête? Quand vous vous êtes décidé à créer cette passerelle?
Ben, finalement, ça a commencé au, mettons, 83-84. Et initialement, ce n'était pas une idée très claire. Initialement, c'était juste « Oh, je joue de la guitare, je joue le jazz, je joue un peu de blues, rock, et je compose de la musique, quatuor à cordes, orchestre de chambre, etc. » À partir de 83-84, d'une façon complètement spontanée, je commençais à intégrer quelques éléments d'une musique dans l'autre. C'était vraiment, l'idée est venue tout seul, je dirais. Mais je dirais, comme 2-3 ans plus tard, entre 86 et 87, j'ai vécu à Londres, où j'ai étudié la direction et je jouais avec beaucoup de musiciens de jazz britanniques, puis j'ai assisté à beaucoup de concerts. Ben, Londres est toujours une ville très musicale et c'était même encore, il y avait même plus de concerts en 86 que maintenant. C'était comme la folie des années 80 à Londres. Donc, j'avais comme une vision de musique très élargie à ce moment-là. Et entre 86 et 87, j'ai comme articulé bien d'une façon très claire le fait que je veux faire le pont entre la guitare électrique et toute la culture de la guitare électrique, ses racines dans la musique nord-américaine, la musique populaire, la musique jazz, rock, blues, etc. Et la musique de concert. Donc, c'était en 86-87 que j'ai vraiment articulé ça à moi-même et commencé à faire des gestes qui sont très clairs dans cette direction-là.
Really? Really? the best you can come up with? So, we're playing this nice, albeit somewhat eccentric bars, and I ask you to come up with a finale. This is the best you can do? Now, I know, we're electric guitarists, and we have a certain reputation to uphold, but I simply cannot believe that this is the best you've got. Are you kidding? Maybe it'd be a good idea if we just took a few moments of silence. No, seriously, could you stop playing? Like, now? I said, stop! Maybe we should take a second just to listen to the silence. Maybe we should count it out together just so we don't get lost. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne, France Musique.
Alors vous êtes improvisateur, est-ce que l'improvisation pour vous c'est un laboratoire de votre écriture?
Oui, absolument. Ce que j'ai constaté avec mon improvisation depuis des années, l'improvisation pour moi n'est pas... Je n'improvise pas exactement comme un musicien de jazz. J'étais musicien de jazz pendant 20 ans, puis je joue encore du jazz chez nous pour le plaisir. Mais quand j'improvise, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'élaboration de la structure musicale, moins que la ligne mélodique ou le chant harmonique. Évidemment, j'utilise les lignes mélodiques, j'utilise le chant harmonique, mais c'est vraiment la pensée structurelle qui est vraiment l'essentiel dans mes improvisations, ce qui fait le lien vraiment très proche à ma pensée de composition. Et ça arrive assez souvent. Ben, comme quand j'écoute mes improvisations, mes improvisations sonnent pas mal plus comme des compositions en temps réel. C'est ce qui est vraiment n'importe quelle improvisation est une composition en temps réel. Mais la pensée structurelle, quand je fais de l'improvisation dite libre, c'est pas libre du tout. Je sais que je vais toujours avoir un grand souci pour la structure, pour la cohérence, pour un focus sur un certain matériel. C'est ni une force ni une faiblesse. On peut improviser dans un million de façons, mais ma façon de vraiment, c'est de penser comme un compositeur en temps réel. Et l'autre côté, quand je compose, dite musique composée, partition, etc., ce que je fasse assez souvent, c'est que je suis en train de composer, mais je laisse aller un tout petit peu. De plus en plus, je compose assez rapidement parce que j'ai de plus en plus la confiance comme un improvisateur. Ben, je vais mettre quelques notes sur la page. Je vais voir si ça me convient. Si ça ne me convient pas, c'est pas grave. Donc, je deviens comme très libre dans le processus de composition. Le processus de composition n'est pas comme l'improvisation, mais je sens une liberté parce que j'ai fait tellement d'improvisation que je n'ai pas la peur des notes. C'est comme si je mette un fa dièse ou un do, un si bémol, c'est pas grave. Je peux le changer ou ça va bien sonner. Donc, c'est clair qu'il y a une relation entre ce que j'improvise et ce que je compose. Même si ma musique composée sonne très composée. Ma musique, j'utilise des gestes assez clairs, assez simples, beaucoup de homorythmie, une musique assez souvent avec des références modales ou tonales. Donc, mes improvisations libres sont parfois plus atonales, complexes harmoniquement. Quand je compose, j'aime beaucoup avoir un matériel très cerné. Donc, ça, peut-être pour moi, c'est un peu la grande différence entre les deux. J'ai peut-être un peu plus de... parce que c'est un peu plus imprévisible. L'improvisation, j'utilise un matériel un peu plus large. Quand je compose, j'essaie de restreindre mon matériel pour qu'il y ait la cohérence, qui est le mot qui revient tout le temps quand je parle de ma composition.
Thank you.
Pensez dans l'écriture d'un opéra sur la sale guerre, Dirty War, période très noire de l'Argentine, de l'Amérique du Sud d'ailleurs, de manière générale. Est-ce que pour vous c'était un acte politique d'écrire un opéra sur ce sujet?
Oui, absolument. Honnêtement, de plus en plus, et surtout avec l'arrivée du Donald Trump, on est conscient que tout est acte politique. Je traverse la rue, c'est un acte politique. J'exagère un peu pour faire le point, mais de plus en plus, si tu achètes... tel type de véhicule, c'est un acte politique. Donc oui, de composer un opéra, juste de composer un opéra, c'est un acte politique. De composer un opéra sur un sujet politique, c'est encore plus un acte politique. Mais ce qui est intéressant avec cet opéra-là, qui a eu sa création en 2015, le sujet n'est pas venu de moi, le sujet est venu de mon librettiste, Doug Smith, parce que lui, c'est pas compliqué, sa femme est argentine, puis sa femme sa famille a vécu la guerre sale. Donc, pour lui, c'est politique, mais c'est vraiment personnel. Donc, pour ce projet d'opéra, ce qui nous a attiré le plus, c'est Doug qui a proposé le sujet. Puis, c'était ma troisième, puis maintenant, on est tombé sur notre quatrième collaboration. J'aime travailler beaucoup avec Doug, j'aime sa façon de voir. Il a une vision du monde qui est assez noire, il faut admettre. Mais ça parle à moi une fois. C'est triste à dire, mais cette vision un peu cataclysmique du monde, je trouve une certaine résonance en moi-même. Mais c'était surtout la qualité de son langage qui m'a attiré. J'aime bien, il écrit d'une façon très claire, mais avec des images très fortes. Donc c'était très clair que le but principalement pour moi, c'était d'avoir une autre occasion de collaborer avec un écrivain que j'aime beaucoup. Mais je travaille sur trois autres opéras actuellement, un cycle gigantesque. Je suis vraiment au début. Ben, une des opéras est terminée, mais je commence à chercher les fonds pour les deux autres. C'est un projet complètement fou, mais bref, on arrive. On va arriver ou pas. Les trois autres opéras sont ultra-politiques. Une est sur le racisme, l'autre est sur l'intelligence artificielle et les changements climatiques, puis l'autre est sur la démocratie et la violence. Donc oui, pour moi, de composer l'opéra, c'est clair qu'il y a d'autres compositeurs pour lesquels la politique a moins d'importance, et tant mieux, la vie est faite avec les différences. Mais pour moi, la vie en général, l'art en particulier, et l'opéra en particulier, ce sont des gestes politiques très, très importants pour moi.
Merci beaucoup, en tout cas, Tim Brady, d'être venu dans cette émission nous parler de votre musique et de votre univers sonore.
Mais ça m'a fait un grand plaisir. Thank you.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Emmanuel Richier, attaché d'émission Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Riumaillard. Il est l'heure maintenant des à l'abrévé d'Anne Montaron.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.